Radio Okapi.
Le journal Jocelyn Moussaou Pondé.
Okapi.
Une nouvelle édition sur Radio Capi, en voici les titres. La débrouillardise, c'est ce que tentent de faire quelques expulsés du Congo-Brazzaville pour survivre dans le camp d'hébergement de Maluku. Ces personnes ne reçoivent aucune nourriture depuis qu'elles ont été déplacées pour ce nouveau site. La destruction des villages par des groupes armés continue à occasionner les déplacements de personnes au centre et au nord de Katanga, affirmation du CICR dans son bulletin d'information publié jeudi dernier. Moins de la moitié de la population de Kinshasa avait payé l'impôt foncier en 2012, déclaration du ministre provincial de Finances lors d'un atelier sur la mobilisation de recettes dans cette ville. Le gouvernement provincial de Kinshasa réfléchissait sur la manière de mobiliser les ressources pour exécuter son budget 2014. Voilà tout pour les titres. Relocalisés depuis mardi dernier à Maluku, les expulsés de Brazzaville tentent toutes les manières pour survivre, si pour la plupart d'entre eux, ils n'ont rien à faire et ne jurent plus que par le retour dans leur milieu d'origine. D'autres, par contre, se lancent dans des petits commerces pour subvenir à leurs besoins. C'est là d'autant plus que, depuis leur arrivée sur les lieux, jusque vendredi, ils ne sont toujours pas nourris. Notre reporter, Jacques Molima, était dans ce camp. Voici son reportage.
Mais entre Kuluna Stade,
s'il faut comparer entre le stade et ici, je pense que là au moins nous mangeons. Ici on ne mange pas, on a faim. En plus nous n'avons pas d'argent.
Eh bien oui, ces expulsés sont à bout de force. Ils ne reçoivent rien jusque-là comme nourriture. Pourtant, parmi eux, il y a des familles nombreuses. C'est le cas de cette femme et son mari.
Nous sommes au total 9, nous avons 7 enfants.
Mais comment nourrir tout ce monde? C'est l'équation résolue chaque matin. Mais cette femme qui entend encore le rapatriement vers son milieu d'origine a trouvé une solution.
J'ai mon petit restaurant de fortune pour aider mes frères les expulsés. C'est le même métier que je faisais à Brazzaville. Ici également, je ne pouvais pas rester sans rien faire.
Avec un petit 500 francs congolais, on peut se procurer un morceau de poisson chinchard pour calmer sa faim. Mais la quantité n'est toujours pas suffisante pour tous les expulsés à Maluku. Par ailleurs, pour cette autre femme qui risque de mettre longtemps dans ce site, n'ayant pas d'endroit où aller, se commettre l'aide à survivre.
Je n'ai pas d'endroit où aller, toute ma famille est en Angola. De mon retour après avoir passé 10 ans à Brazzaville, j'ai trouvé que la parcelle a été vendue. J'ai 6 enfants, je ne sais où aller, voilà pourquoi je me débrouille pour nourrir les enfants.
La débrouillardise semble être l'unique voie de survie pour beaucoup dans ces camps des expulsés de Maluku.
Au Kassai Oriental, le ministre provincial de la Santé ad interim a lancé jeudi la campagne de sensibilisation de la population sur la série de vaccinations des enfants qui débute du 27 au 31 mai prochain. C'était au cours d'un point de presse tenu dans son cabinet de travail. Pour le Kassai Oriental, cette campagne concerne la vaccination contre la rougeole, la poliomyélite et l'administration de la vitamine A et les déparasitages au mébendazole dans toutes les 51 zones de santé du Kassai Oriental. Et dans 20 zones de santé, cette activité de vaccination sera suivie de l'enregistrement des naissances des enfants à l'état civil, affirme le ministre provincial de la Santé. Roger Chilombo, ministre provincial de la Santé ad interim, est au micro de François Tubenji.
Depuis un temps, on parle de la résurgence des épidémies de la rougeole dans notre province. Et depuis que cette année a commencé, c'est la zone de santé de Tchitenga qui bat record avec plus ou moins 50% des cas. Et nous avons constaté que cette épidémie est en train de gagner du terrain ici à Mbujimayi et ses environs. Raison pour laquelle, avec le partenaire technique et financier, il sera organisé dans notre province à partir du 27 mai. Il y a une campagne dans toute la province du Kassai Oriental, c'est-à-dire dans les 51 zones de santé. Dans les prévisions, on a pensé aussi à l'enregistrement des naissances. Ça se fera dans les 20 zones de santé parmi les 51 qui sont concernées par cette campagne. Ce point de presse était pour moi un moyen de sensibilisation, l'alerte pour que notre population amène des enfants à la vaccination.
Les communautés du centre-nord du Katanga aux prises avec une violence endémique. C'est l'intitulé du bulletin d'information publié par le CICR jeudi dernier. Cet organisme international affirme que les mouvements des populations continuent à être observés dans les territoires de Mitwaba, Manono, Pweto, Moba, Nyunzu et Malembankulu. Cela fait suite aux destructions des villages par des groupes armés. Le CICR observe aussi que la gestion des carrières minières et l'absence d'emploi compliquent davantage la situation. On écoute Annick Bouvier, chargée des communications du CICR en RDC, au téléphone de Denise Mayo.
Ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore un certain nombre de groupes armés encore actifs qui s'opposent sporadiquement au FARDC, qui fait que la population vit dans une tension perpétuelle. Et également, nous observons depuis début janvier 2014 des accrochages entre certaines communautés pygmées et Luba qui sont en augmentation régulière. Et on note que de nombreuses communautés mènent une vie d'errance à la recherche non seulement d'un environnement plus sûr, mais aussi et surtout des moyens de subsistance de base. Pour atteindre ceux qui ont besoin d'une assistance, non seulement il y a la précarité de la situation sécuritaire des derniers mois, la dégradation de l'état des routes complique l'accès aux organisations humanitaires. Malgré cela, notre équipe récemment a pu reprendre ses activités d'assistance et a distribué des biens de première nécessité aux personnes déplacées à Mpiana et dans les environs.
Le gouvernement provincial de Kinshasa est depuis le mois de février doté d'un budget pour l'exercice 2014. Ces budgets se chiffrent à plus de 44 milliards de francs congolais. Mais comment mobiliser les ressources, notamment les taxes et impôts du ressort de la ville? Cette question était au centre d'un atelier de deux jours clôturé vendredi par le ministère provincial en charge de finances et économie avec le financement du programme d'appui au démarrage de la décentralisation, une structure de l'Union européenne. Daniel Tambinzoni revient sur le grand moment de cet atelier.
Un contrat de performance entre les régies financières de la ville de Kinshasa et le ministère provincial des finances est conçu. Il devrait d'abord passer au Conseil des ministres avant sa signature entre les parties. Le coordonnateur du programme d'appui au démarrage de la décentralisation, structure de l'Union européenne qui a financé ses assises, parle des résultats attendus. Yves Renaud.
Pour la ville de Kinshasa, c'est de permettre l'amélioration des ressources propres de la ville de Kinshasa. Nous travaillons avec Kinshasa déjà depuis 3 ans sur l'impôt foncier, par exemple, sur la collecte d'autres taxes. Et nous nous sommes rendus compte que, malgré les promesses, le résultat n'était pas forcément là. Donc l'idée, à travers ce contrat de performance, c'est d'inciter les agents collecteurs à être plus performants.
Seulement 45% de la population kinoise avait payé l'impôt foncier en 2012-2013, reconnaît Guy Matondo, et au ministre provincial des Finances de rassurer que le nouveau contrat de performance en tiendra compte pour que ce qui s'est passé ne se reproduise.
Parce que c'était Makala qui était la première commune avec Kimbanseke. Au mois de juin, nous lançons encore la campagne par rapport à 2013 et nous pensons que par rapport à tout ce qu'on nous a donné comme observation, surtout pour les quartiers résidentiels, je pense que cette fois-ci, comme on a fait un système de forfait même à leur niveau, ils auront la facilité de s'acquitter.
Le directeur général de la DGRK, principal service collecteur des ressources financières de la ville, a préféré ne pas livrer à la presse la taille des assignations de sa structure.
Les participants de différents pays africains au 8e forum régional de FIDA sur l'agriculture familiale et l'agro-industrie ont visité jeudi dernier dans certains centres maraîchers de Kinshasa. Il était question d'étudier les possibilités d'aider ces paysans à développer l'agriculture à petite échelle qu'ils pratiquent. François Kadima a accompagné l'équipe qui s'est rendue à Nchili-Sekomaf dans laquelle s'est trouvé également le ministre de l'Agriculture.
Nous sommes au centre maraîcher de Kimbanseke. Plusieurs variétés de cultures sont produites sur place. Mais une grande difficulté pour ces paysans, l'évacuation de leurs produits pour la commercialisation.
Nous, on a beaucoup demandé, puisque en 83, on avait un véhicule que le gouvernement a mis à la disposition du projet Sekomaf, qui nous permettait d'évacuer facilement donc nos légumes. On nous facilite aussi cette tâche-là. À ce moment-là, nous aurons à évacuer nos produits avec moins de peine.
Mais que pense le gouvernement congolais pour aider ces petits producteurs? Écoutez le ministre de l'Agriculture, Jean-Chrysostome Vamuiti.
Je peux dire que tout le temps, Le gouvernement n'a fait qu'accompagner l'agriculture familiale par plusieurs actions. Même après les deux dernières campagnes agricoles, la plus grande partie des bénéficiaires, le fonds qui a été mis à la disposition du gouvernement pour relancer la production agricole, les bénéficiaires étaient en fait des organisations paysannes.
Signalons que le FIDA, qui a organisé cette visite, tient à aider les paysans agricoles à accroître leur production. Il a déjà financé à hauteur de plus de 151 millions de dollars américains des ressources propres, les petits producteurs agricoles en RDC.
Parlons du cinéma. Dans ce journal, le film Timbuktu du cinéaste mauritanien Abderrahman Sissoko fait honneur des cinéastes africains au Festival de Cannes 2014. C'est pour la première fois que ce cinéaste est en lice pour la Palme d'Or, lui qui est habitué à présenter plusieurs films. Dans ses films, le réalisateur décrit la terreur observée dans l'occupation djihadiste de Timbuktu, une ville malienne. Abderrahman Sissoko s'est confié hier à Radio Capi. Il plaide pour la mise en place par les dirigeants africain d'une politique culturelle censée contribuer au développement du continent. Il est joint au téléphone par Askin Zigbiatayoro.
Timbuktu est une ville de tolérance, une ville du savoir, une ville d'échange. Et quand on arrive manu militari et qu'on impose sa vision du monde et de la foi, ça révolte le cinéaste aussi que je suis. En Afrique, nous, on fait pas beaucoup de films. Il n'y a pas une vraie politique dans ce sens. Ce que nous cherchons, c'est que les États jouent un rôle important dans le soutien de leurs cinéastes respectifs. C'est important qu'on comprenne que là, la culture fait partie du développement.
Peut-on dire qu'au regard de la présence de votre film en compétition de ce festival mondial, que le cinéma africain est bien vivant?
Non, il ne faut pas voir dans une présence d'un film mauritanien ici africain que le cinéma africain est vivant. Non, il est rare qu'on soit à Cannes et je pense que on peut y être plus souvent si des efforts sont véritablement faits pour soutenir la production. Qu'on ne s'étonne pas l'année prochaine s'il n'y a pas de film.
Une brève sportive pour terminer. Ligue des champions de la CAF, l'ASV Club de la RDC reçoit ce dimanche dans l'après-midi le club égyptien de Zamalek. Le match se joue à Kinshasa au stade Tata Raphaël. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.